Alors, suite à la canonisation de Marguerite Bourgeois en 1982, alors la congrégation de Notre-Dame a aménagé un magnifique centre Marguerite Bourgeois à Westmount, dans un quartier résidentiel magnifique avec une verdure. Le centre était magnifique parce que j'y ai œuvré, fait de marbre, de bois, de chêne, des bureaux spacieux, des repas à la cafétéria, l'entretien était déjà réalisé. Alors, pour une direction, c'était l'idéal, sauf que c'était très loin des gens et éloigné, disons, non accessible. Et il y avait à peine 200 personnes qui y venaient chaque année. Alors, les autorités de la congrégation m'ont demandé de faire un effort et d'amener les gens. Mais je me suis très vite rendu compte que les enseignants, par exemple, qui téléphonaient pour venir avec leur groupe d'enfants, on sait que Marguerite Bourgeois était la première maîtresse d'école de Ville-Marie, c'était très important d'y recevoir des groupes scolaires. Alors, on me disait, est-ce qu'il y a des restaurants autour? Est-ce qu'il y a d'autres musées à visiter autour? D'autres attraits touristiques? Mais non, il n'y avait que le centre Marguerite Bourgeois. Alors, plutôt que de penser encore à faire d'énormes efforts et de louer des autobus spéciaux pour amener des groupes d'enfants et des groupes de visiteurs, nous avons conclu qu'il était bien plus simple de déménager, même si ce centre magnifique venait d'être aménagé. Alors, on s'est tourné vers le Vieux-Montréal parce que Marguerite Bourgeois y avait œuvré toute sa vie. Elle était dans la maison-mère, là, rue Saint-Jean-Baptiste, un peu plus loin dans le Vieux-Montréal. Et aussi parce qu'elle avait fondé cette chapelle qui est très importante pour la congrégation Notre-Dame, étant donné que c'est Marguerite qui l'avait fondée au 17e siècle. Tout cela a commencé en 1655. Alors, nous avons visité des lieux. Patricia Simpson était co-responsable avec moi au Centre Marguerite Bourgeois à ce moment-là. Bon, visiter des lieux dans le Vieux-Montréal, attenant à la chapelle, le plus proche possible de la chapelle, ça ne fonctionnait pas. Alors, se rendre compte que finalement, c'était encore bien mieux de déménager dans la chapelle elle-même. Alors, nous avons conclu des ententes avec les prêtres de Saint-Sulpice. Il faut penser que les prêtres de Saint-Sulpice sont propriétaires de la chapelle. Ah oui, Marguerite Bourgeois avait remis la chapelle. Elle l'a mise sur pied. Elle l'a fait construire par des maçons. Et les sœurs ne pouvaient pas dire la messe, comme maintenant d'ailleurs. Alors, elle l'a remise aux Sulpiciens et ils ont été propriétaires. Elle l'a remise ou à la basilique Notre-Dame aussi, parce que c'était une annexe de la basilique Notre-Dame. Elle appartient aux Sulpiciens maintenant, qui l'ont rachetée à une certaine époque, de la basilique Notre-Dame. Et on a donc conclu avec les Sulpiciens en partenariat une œuvre, un projet à caractère marial, une œuvre d'évangélisation qui aurait lieu ici. Alors, ça devait être le Centre Marguerite Bourgeois qui déménage dans certains locaux de la chapelle. Mais nous nous sommes vite rendus compte que c'était bien compliqué. Et il y a des découvertes qui se sont effectuées autour des années 96 à 98, beaucoup d'imprévus, un site archéologique découvert, de grandes œuvres de François-Édouard Meloche du 19e siècle, bon, qui ont été retrouvées sur le plafond de la chapelle. Et, bon, c'était plus simple de faire un seul projet, mais un seul projet qui était beaucoup plus grand que le Centre Marguerite Bourgeois, qui était un mémorial. Alors, bon, ça a fini par devenir 9 salles de musée. Ça a été surtout plusieurs réunions. Et comme nous sommes une communauté enseignante, je pense qu'on peut dire habituée à établir un dialogue avec les laïcs, avec nos élèves, avec les gens, on a voulu réaliser la même chose ici. Alors, établir ce dialogue et se demander quels aspects de la vie de Marguerite Bourgeois nous voulions partager avec les gens. Alors, est-ce que c'était Sainte Marguerite Bourgeois qui venait d'être canonisée en 1982? Est-ce que c'était celle qui avait enseigné une grande partie de sa vie? Est-ce que c'était Marguerite Bourgeois mystique, en prière? Bon, nous avons essayé de traiter tous ces aspects, mais surtout, Marguerite Bourgeois qui accueillait les gens. Elle était plus sais pas si on dit plus, mais tu n'étais pas seulement une enseignante, tu as été une travailleuse sociale avant l'heure, tu es très proche des gens. Alors, c'est ce que nous avons voulu faire ici. Même dans l'entrée, nous avons maintenu à la salle d'accueil une berceuse. Il y en a maintenant deux. Alors, c'est très haut de monter, visiter la tour. C'est 69 marches. Alors, il arrive que des personnes plus âgées ou une maman avec son bébé, pendant que le reste de la famille va visiter là-haut, ils se bercent. La chapelle continue d'être gratuite pour les gens. Tout ça, c'est question d'accueil. Alors, c'est, oui, c'est sur la rue de la Commune. On appelle la tour, dans le fond, ce n'est pas un véritable clocher. C'est une ancienne chapelle aérienne qui avait été construite là-haut. On voit encore ça de bon secours. Bon, alors, c'est cet aspect que nous avons voulu mettre en valeur dans le musée. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions. La Maison Saint-Gabriel existait déjà, c'était déjà un magnifique musée pour la congrégation de Notre-Dame. Mais ici, c'était un lieu avec un volet de la mission qui était pastoral. Alors, on peut dire qu'il y a trois volets à la mission. Pardon. Alors, que le musée et la chapelle deviennent une vitrine pour présenter l'héritage de la congrégation de Notre-Dame. Également un lieu de culte et un lieu pour faire connaître et garder vivant le charisme de Marguerite Bourgeois. Alors, nous avons pensé que vraiment, de notre vivant, nous essaierions de transmettre un héritage à la population. Alors, au moment opportun, nous avons engagé Maurice Desnoyers, qui était un architecte, qui est devenu architecte mandataire, et lui nous a informé de la magnificence, de la beauté du lieu. Nous le savions d'une certaine façon, mais avec son vocabulaire d'architecte, alors il nous a davantage sensibilisés. Ce qui fait que dans cette salle, qui est que nous appelons la crypte, les murs étaient droits, des murs de plâtrés dans le fond, et ça a été une découverte étonnante d'y retrouver de la pierre derrière, comme ça avait été construit. Dans les années 1784. Et bon, c'est un des exemples de salles que nous avons conservées dans le musée. Nous sommes allés chercher aussi, peu à peu, ça devenait un véritable musée officiellement. Donc, nous sommes allés chercher des firmes de design com, de design, pour vraiment réaliser un musée. Notre projet a suscité beaucoup d'intérêt aussi auprès des instances gouvernementales, donc le ministère de la Culture et des Communications de cette époque, dans les années 1996-98, la Ville de Montréal, si bien que ce projet qui devait coûter 1 million, 2 millions au départ, en a coûté 5 millions et nous avons reçu à peu près 1 million en subvention via le programme de la Fondation du patrimoine religieux ou via directement les instances gouvernementales. Et nous avons décidé aussi d'incorporer la chapelle et le musée ensemble, aussi bien au niveau des emplois des travailleurs, pour l'entretien, pour toutes les questions administratives également. Donc, la mise sur pied d'un conseil d'administration, d'une corporation pour la chapelle et le musée.